Bonjour Arnaud,
Salut.
merci d'être avec nous pour un podcast sur la chaîne YouTube de Cryptost. On est encore une fois dans un nouveau décor, on est à ETHCC et on a profité pour te rencontrer et pour discuter de ton projet, Mon Pèlerin, qui est un projet que beaucoup de monde connaissent, on a déjà parlé sur Cryptost. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes, c'est la coutume un petit peu,
okay.
Mais avec toi, tu as un parcours qui est assez particulier, assez intéressant à mon sens et qui devrait intéresser ceux qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu peux te présenter, expliquer comment est-ce que tu es arrivé, comment est-ce que tu as mis les pieds dans les cryptos?
Ouais. Alors moi, effectivement, ouais, mon parcours à la base, en tant qu'enfant, j'ai grandi à l'international avec des parents qui voyageaient beaucoup. Je suis arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans pour étudier à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Donc j'ai un master en système de communication avec une dominante en sécurité informatique. Maintenant, je n'ai jamais travaillé en qualité d'ingénieur. J'ai fait toute ma carrière dans la finance, notamment sur la partie trading de commodities et de forex. Et ce qui est assez marrant en fait, dans cette histoire, c'est que j'ai commencé ma carrière en 2007-2008. Donc c'était en pleine crise financière. Et puis bah, quand tu es un ingénieur sur un trade floor, tu as envie de démystifier un peu le truc. Tu vois. Donc tu commences à poser des questions un peu bêtes. C'est quoi l'argent? Pourquoi ça porte un taux d'intérêt? Pourquoi ce taux d'intérêt est dicté par un planificateur central, la banque centrale, et pas par le marché comme tout le reste? Et puis là, en fait, on se rend compte que bah, même les superstars du trading floor te regardent avec des grands yeux, personne ne s'est posé ce genre de questions. L'argent, bah, c'est un moyen d'échange. Bah, non, il manque quelque chose, c'est que la moitié du sujet, en fait. Et c'est vrai que ce moment-là, pour moi, il a été un petit peu décisif. Donc ça m'a amené à des lectures un petit peu libertariennes. Je suis devenu très fan de ce qu'on appelle l'école autrichienne d'économie. Et je suis rentré un peu comme un goldbugs, hein, donc en mode, ouais, la seule devise éternelle, c'est l'or, etc., etc. Puis finalement, en 2011, j'ai rencontré Bitcoin. Et là, ça a été une vraie révélation, parce que là, pour la première fois, j'avais une version numérique de l'or. Et puis, c'était surtout, en fait, cette idée de, mais on peut créer de la valeur basée sur la confiance, et cette confiance, on peut l'avoir enforced par des maths, et pas par un tiers de confiance. Et là, cette révélation, ça a été une grosse claque. Et à partir de là, c'est devenu, on va dire, un peu une obsession.
Et donc, c'est devenu couplé un peu aussi entre ton métier qui était dans la finance et ta formation qui était plutôt côté tech. Donc, c'est venu mixer les deux.
Exactement.
Et ça a répondu à des problématiques que tu te posais.
Et ça répondait exactement à toutes les questions que je me posais jusqu'alors. Ouais. Et donc, c'était, franchement, ça a été... Voilà, quand je dis que ça a été une obsession par la suite, c'est qu'ensuite, je suis resté obsédé.
D'accord. Tu as commencé à miner du Bitcoin, j'imagine?
Alors, j'ai fait un petit peu de minage au tout début. Ça a été une des plus grosses, enfin, pas une plus grosse erreur, mais ça a été une erreur, dans le sens où le temps de recevoir les machines, de les mettre, le truc avait déjà... La difficulté avait déjà monté. Après, bon, bah voilà, il faut accepter d'avoir une pièce de ton appartement qui est dédiée à ça, parce que ça fait du bruit, hein, c'est un sèche-cheveux qui tourne en permanence.
Ouais.
Donc, finalement, j'ai pas fait ça très longtemps, surtout quand tu te rends compte que... Bah, c'est simplement plus simple que d'acheter et puis de détenir que de miner, surtout à l'époque où ce n'était pas aussi cher qu'aujourd'hui.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu te posais ces questions-là avant de découvrir Bitcoin, là où, pour la majorité d'entre nous, je pense, Bitcoin nous a fait réfléchir à ces questions. C'est plutôt dans l'autre sens. Donc toi, une fois que tu découvres Bitcoin autour de 2011-2012, tu commences à t'y intéresser, à t'y plonger. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es décidé à lancer ton propre projet, à commencer à construire dans cet écosystème et à construire notamment du coup Mon Pèlerin?
Ouais, bah, y a plein de choses, mais c'est vrai que alors déjà j'ai un parcours où j'avais toujours voulu faire un petit peu d'entrepreneuriat. Maintenant, c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile parce que bah, quand tu as une carrière, tu es bien payé, tu as des vacances, tu as des week-ends. Voilà. Faire le choix de quitter ce confort pour aller dans l'inconfort et l'insécurité, c'est toujours un peu difficile. Donc en fait, j'ai toujours eu ce projet un peu dans l'arrière de la tête. Sachant que moi-même, en tant que gamin, comme on a beaucoup voyagé avec mes parents, la problématique de déplacer de l'argent était déjà une problématique importante, parce qu'à l'époque, c'est plus qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu faire quelque chose là-dedans. Maintenant, le vrai déclencheur, je pense, ça a été pour moi Mt. Gox. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais Mt. Gox, ça a été une des premières plateformes d'échange de crypto centralisée qui a fait faillite, et qui a fait faillite avec l'ensemble des fonds des clients. Moi, à l'époque, ce n'était pas une plateforme que j'utilisais pour acheter des bitcoins, mais j'ai fait l'idiot, j'ai fait la connerie de vouloir faire de l'arbitrage parce que ben, d'un coup, la plateforme n'avait pas le même prix là que là, etc. Puis moi, je me disais, mais c'est pas possible que le bonhomme, il ait mis 100% des fonds en retoilette. Hein.
Bien sûr.
Moi, dans ma tête, le mec, il avait mis au maximum 20% en retoilette et 80% restant étaient en cold et étaient safe. Donc même s'il se faisait hacker, même s'il perdait, même s'il avait un saut percé, quelque part, il n'y avait que 20% de haircut sur le sujet. Ouais. Donc, arbitrage à 50%, pour moi, ça allait bien. Sauf que ouais, j'avais mal calculé mon histoire et donc du coup, tout perdu, rect.
Ah oui, t'as donc, tout perdu sur
ouais, tout perdu, rect, okay. Complet.
D'accord.
Et donc c'est vrai que là, bah, c'est un peu, on va dire, un wake-up call. Hein. Ça te réveille quand même un peu. Et ça te réveille surtout sur les fondamentaux.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on a créé ça à la base? C'est pas pour échanger des banques toutes pourries contre des exchanges encore plus pourris. C'est pour te rendre libre. Hein, on a créé le Bitcoin, on a créé la crypto pour finalement rendre les gens libres, indépendants, leur donne un outil de contestation, finalement on leur donne un outil de révolution. Et avant les révolutions, c'était violent, il fallait couper des têtes.
Ouais.
Et là, tu as juste un outil qui te permet de opt-out du système en disant bah, « moi, j'ai pas besoin d'être violent, le système me plaît plus, bah, voilà, bah, j'ai un outil qui est indépendant et qui me permet de faire ce que je faisais avant avec les banques, mais de manière complètement autonome et indépendante. » Et donc, on est à partir de là, cette obsession, elle est passée sur le côté self-custodial. Il fallait éduquer les gens à prendre possession de ces cryptos, à ne plus les laisser sur des exchanges, à éviter d'utiliser des exchanges le plus possible. Utiliser des passerelles comme la nôtre pour faire du on-off-ramp, mais le moins possible utiliser ces plateformes de trading où si tu les utilises pour trader, dès que tu as fini de trader ta fin de journée, tu retires et tu laisses jamais overnight les tokens ou l'argent.
Ouais. C'est un bon point ce que tu disais, je trouve, puisque il y a beaucoup de personnes qui se questionnent actuellement sur ce côté, on s'extraire un petit peu du système actuel grâce aux crypto-monnaies, grâce à Bitcoin. Et pourtant, c'est un petit peu difficile d'y entrer. C'est la vraie question, c'est de dire, on a le monde réel, on a l'écosystème crypto et la frontière entre les deux, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'une plateforme d'échange de crypto-monnaies pour y entrer? Voilà, pour la majorité des gens, c'est l'unique solution. Et justement, vous, avec mon pèlerin, vous proposez une autre solution qui permet de le faire sans avoir à passer par des plateformes d'échange, sans avoir forcément aussi à utiliser un KYC, etc. Donc, est-ce que tu peux, j'en profite pour te poser la question, puisqu'on ne l'a pas fait, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que vous proposez justement avec Mon Pèlerin?
Alors, donc nous, avec Mon Pèlerin, alors on a plusieurs lignes de produits. On fait d'abord, on va dire, si on a un arbre, c'est comme ça. Donc, on a d'un côté la tokenisation, on aide des sociétés à faire de la tokenisation, ouais. Notamment pour incorporer des actions, des obligations, et on va dire ce qu'on appelle le security token. Et de l'autre côté, on a la partie on-off-ramp. Et finalement, la partie on-off-ramp, en fait, on fait quoi? On se focalise dans cette espèce de niche de marché, on va dire la 10% de niche de marché du self-custody. Donc, c'est-à-dire l'inverse de ce que font les exchanges centralisés. Et donc, nous, notre credo, c'est de faire du on-off-ramp de la manière la plus seamless possible, la plus simple possible. Donc, le but, c'est vraiment de bridger ton IBAN avec ton adresse hein, et puis de pouvoir recevoir sur un wallet qui t'appartient et qui est à toi, que ce soit notre application mobile, qui est finalement un wallet, et c'est un wallet non custodial, hein, du coup on n'a pas de pouvoir de disposition sur tes fonds, tu as tes 12 mots, tu les notes, etc. Ou n'importe quelle autre wallet, que ce soit ton Metamask, un Ledger, un Trésor, ce que tu veux. Et donc vraiment le but c'est vraiment d'essayer de, on va dire, de flouter les lignes entre ces deux mondes et de les rendre les plus interopérables possibles.
Voilà, okay.
C'est pour ça que le produit s'appelle Bridge Wallet typiquement.
Ouais, tout à fait.
Parce qu'on cherche vraiment à.
J'allais faire te questionner là-dessus sur le nom justement, si c'était pour ça. Mm-hmm. Je trouve que du coup le nom est bien trouvé.
Bon, le nom de Mon Pèlerin aussi est intéressant.
Le nom de Mon Pèlerin, j'ai lu apparemment l'histoire. Ça date quoi, d'une conférence de 1940.
Ouais, alors c'est plus qu'une conférence. Bon, j'encourage plutôt les gens à aller voir sur Wikipédia. Mais vite fait, Mon Pèlerin, en fait, c'est un petit mont à côté de Vevey en Suisse.
Ouais.
Qui est très connu chez les libertariens, notamment aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a vu la création du premier think tank ou société de penseurs après la Deuxième Guerre mondiale. Et le but de cette société de penseurs était de promouvoir la liberté comme précondition à la prospérité.
D'accord.
Et si on a la prospérité, on n'aura pas de Troisième Guerre mondiale. Voilà. Donc c'était vraiment l'idée fondamentale. Et en plus de promouvoir le modèle de décentralisation suisse, où finalement les politiciens ont très peu de pouvoir à chacun des échelons, et puis celui qui est tout en haut à la tête de la confédération, il a quasiment pas de pouvoir en fait. Le plus de pouvoir, c'est à côté de chez toi, c'est ton maire.
C'est une DAO quoi.
Oui, on peut dire un peu comme ça, mais c'est vrai que le système est très décentralisé, les gens votent sur tous les sujets. En Suisse, on vote pour les lois, on vote pas pour des maîtres. Hein. Ouais. Donc on a des maîtres aussi, comme en France ou comme dans d'autres pays, des maîtres, ce qu'on appelle les politiciens. Mais ces gens-là ont très peu de pouvoir finalement, donc les lois sont votées par le peuple.
Ok, donc c'est un beau clin d'œil. C'est un beau clin d'œil. C'est ce qui t'a motivé, j'imagine, du coup, à choisir ce nom.
Exactement.
Ok. Je voulais qu'on parle d'un autre sujet maintenant qu'on a un petit peu appréhendé ce que vous proposez, comment ça fonctionne. Actuellement, le gros sujet du moment, c'est la régulation. On en parle beaucoup. Quels sont les challenges pour vous au sujet de la régulation, avec le fait que vous proposez notamment ne pas avoir de KYC quand on s'inscrit, quand on crée un wallet? Est-ce que c'est un vrai problème pour vous? Est-ce que vous avez des défis à relever là dans les prochains mois?
Pour le moment, non. Pour le moment, nous, on n'a pas de sujet. On est basé en Suisse. On est une société suisse, donc on suit les règles suisses. À ce titre, on peut autoriser jusqu'à 1000 francs, équivalent à peu près 1000 euros par jour, un peu plus, par jour, sans KYC, comme tu dis, sans identification formelle. Et ensuite, c'est 15 000 par mois, 100 000 par année. Voilà les limites aujourd'hui sur lesquelles on peut transacter via nous sans avoir à faire d'identification formelle de type KYC. Ça, aujourd'hui, ça fonctionne, mais c'est déjà, si tu veux, nous, on est déjà en train de contester ça auprès de notre régulateur parce que on voudrait des plus hautes limites. Aujourd'hui, en Suisse, le cash, c'est 5 000. D'accord. En dessous de 5 000, avec du cash, tu échanges des euros contre des francs suisses, eh ben, tu n'as pas besoin de donner ton identité. Mais pour la crypto, ils ont abaissé ce seuil à 1000. Et ça, techniquement parlant, c'est anticonstitutionnel. Parce que la constitution suisse dit qu'on doit être technologiquement neutre. On ne peut pas appliquer des règles différentes à une techno plutôt qu'à une autre. Donc la technologie papier versus la technologie Excel ou la technologie blockchain devrait avoir les mêmes règles. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, le régulateur suisse subit des pressions internationales. Donc ils ont abaissé la limite à 1000, ce qui reste mieux que, on va dire, la plupart des autres pays où c'est dès le premier euro. Maintenant, combien de temps ça va durer? Où est-ce qu'on va récupérer le 5000 ou est-ce qu'on va descendre à 1 euro? Ça, l'avenir nous le dira. Mais je pense qu'aujourd'hui, le régulateur n'est pas dans une position d'imposer des limites plus strictes. Parce que sinon, ça voudrait dire changer toutes les lois sur tout le reste, sur le cash, etc. Et là, je pense que ce serait une révolution en Suisse.
Tu parlais tout à l'heure de ton histoire avec Mondgox, du fait qu'il y a eu un petit retour aux fondamentaux à l'époque. Moi, à mon échelle, je l'ai constaté aussi avec FTX. On a remarqué qu'à l'issue de FTX, beaucoup d'investisseurs qui ont repensé leur manière d'investir, justement, donc en se tournant vers des wallets de type Ledger, par exemple, en utilisant plus de protocoles de finances décentralisées pour faire leur activité de trading, etc. Est-ce que toi, tu l'as constaté?
Oui.
Chez vous, vous avez eu beaucoup plus d'utilisateurs?
Très clairement, on voit qu'il y a un trend. Nous, on y croit depuis le début. Hein. On surfe sur ce trend. Au début, on a commencé dans une niche à 3%. Aujourd'hui, c'est une niche à 10%. Mais voilà, le self-custodial, on est convaincu, va vraiment prendre la majorité des parts. Et probablement à terme, la notion d'exchange centralisé va disparaître. Quelque part, en fait, aujourd'hui, ce qu'on crée avec Uniswap, ce qu'on crée avec toutes ces choses-là, et demain, on aura des order book on-chain, des vrais order book on-chain. Et ça deviendra une commodité du réseau. Les exchanges ont vocation à exister aujourd'hui pour une espèce de phase de transition.
Combler quelque chose aussi, combler un besoin.
Ouais, mais parce que c'est une phase de transition. Demain, une fois que tu pourras, via Bon Pèlerin par exemple, associer ton IBAN et ton adresse, et que en fait, c'est un lien inaliénable entre les deux, bah, en fait, voilà.
Et le problème est résolu.
On peut peut-être en parler après, mais c'est vrai que la prochaine étape de ce qu'on va offrir, c'est ça. C'est que nous, Bon Pèlerin, on va offrir des IBAN dédiés aux gens pour justement qu'il n'y ait même plus de notion de crypto.
Okay.
Quand tu fais un virement sur un compte à ton nom, du coup, ton banquier ne sait même plus qu'il y a de la crypto derrière. Ce n'est pas qu'on fait un virement à Kraken ou faire un virement à Binance, c'est faire un virement à toi-même.
D'accord.
Et toi, derrière, tu es crédité en stable, en Ether, en Bitcoin, en ce que tu veux.
Ok, bah, je veux bien justement que tu nous en parles. Je sais que tu étais juste avant sur un talk où tu annonçais quelques nouveautés sur Mon Pèlerin. J'allais te questionner justement là-dessus. Quelles sont les grosses échéances à venir? Donc, je veux bien que tu nous fasses un petit focus là-dessus.
Là, c'est ça. Vraiment, l'idée fondamentale, c'est encore une fois bridger ces deux mondes. Donc, on veut vraiment aller un cran plus loin. Aujourd'hui, la solution, elle est vraiment top. Hein, donc, vraiment, tu nous envoies de l'argent avec une petite référence. Cette référence, elle contient trois informations importantes. Elle contient qu'est-ce que tu veux acheter? Je veux acheter de l'Ether.
Ouais.
Elle contient où est-ce que tu veux le recevoir, sur quelle wallet et sur quelle chaîne tu veux le recevoir.
Okay. D'accord.
Donc, ces trois informations sont contenues dans la référence. Donc, quand tu nous envoies un virement bancaire, nous, on a cette information et donc, on sait comment router le paiement. On sait que Jean Tartampion nous a envoyé 1000 francs ou 1000 euros et ces 1000 euros doivent être convertis en Ether sur Mainnet dans sa Ledger au coffre.
Voilà. Okay.
Et ça, bah, ça marche très bien. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est pas idéal? C'est parce qu'aujourd'hui, tu fais un virement à mon pèlerin. Donc, il se peut que pour x, y raison, ta banque soit anti-crypto, et donc qu'elle dise, ah non, ça, je ne veux pas processer comme virement. Voilà. Maintenant, l'étape d'après, c'est de dire, en fait, on remplace mon pèlerin par toi. C'est-à-dire que du coup, on te met un IBAN à ton nom. Autant que tu veux d'ailleurs d'IBAN, c'est un peu le but, c'est-à-dire d'avoir un IBAN Bitcoin, un IBAN Ether, un IBAN stable, un IBAN machin, etc. Et toi, en fonction, bah, tu peux même collecter ton salaire, par exemple, sur
Mais
ton IBAN stable euro, par exemple, et bah, tu collectes ton salaire, ça te le crédite en stable euro. Nous, on ne fait pas de dépôt, hein. Nous, à aucun moment, on prend du dépôt, on ne fait que de la transformation. Tu es en self-custody, tu as tes euros sur ton wallet, et au moment de faire un payout, eh ben, tu fais un payout indépendamment que tu rentres une adresse, ce sera routé on-chain, mais si tu rentres un IBAN, ce sera redeem chez nous et on paye pour toi. Et en fait, ça fonctionne exactement comme un compte en banque. La personne en face reçoit un virement qui provient de ton nom. Et en fait, ça fonctionne exactement comme entre guillemets, un Revolut on-chain.
Donc ça, c'est les grosses nouveautés à
Ouais.
venir.
Il y a
C'est
juste
un
la
produit.
carte aujourd'hui, on n'est pas encore certain de la date, etc. Parce que tout le monde nous réclame une carte. Pour moi, c'est un sujet un peu compliqué, la carte, parce que c'est un métier qui est compliqué, la carte. Hein. C'est un métier voilà, où il n'y a pas, y a pas beaucoup d'argent à gagner, voire pas du tout, voire plutôt à en perdre. C'est bien pour l'image de marque. Mais en fait, dans ma réflexion, je me dis, mais qu'est-ce qui peut battre une Revolut aujourd'hui? La carte Revolut, elle marche bien. Le problème de ces crypto-cards, bon, bah, c'est cool, mais elles sont généralement en euros ou en dollars. Donc quand tu vas à Prague, bah, typiquement, tu te tapes des gros frais de change, etc. Ta Revolut, t'as pas tous ces problèmes. Donc avec l'instant, c'est pas. Finalement, tu peux top up ta Revolut instantanément. Donc, tu as mon pèlerin, tu appuies sur un clic, bim, tu as top up ta Revolut.
C'est
Finalement,
presque mieux.
voilà. Donc, après, nous, évidemment, on va vouloir proposer une Revolut-like hein, dans l'histoire de la carte. Le problème, c'est que ça vient un peu en mode œuf et de la poule. Tu sais, il faut un certain volume pour que la carte soit intéressante. Il faut machin. Donc, on va commencer par les IBAN. On va commencer par le compte sous cette forme d'IBAN, avec le bouton de top up ma Revolut instantanément. Et puis à terme, évidemment, on veut offrir cette carte. On va voir si les gens sont très pressés de l'avoir, on va aller plus vite. Si les gens disent non, pas, voilà, on va évaluer la partie carte tout bientôt.
Super intéressant. Dernière petite question. Avec le wallet, vous supportez à peu près une douzaine de blockchains.
Ouais.
Est-ce que vous avez l'intention d'en ajouter, notamment certaines layers 2 d'Ethereum? On sait qu'il y en a pas mal qui sont présentes à ETHCC aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs?
Tout à fait. Alors après, on est toujours un petit peu, voilà, on ajoute là où il y a de la demande. Hein. On ne va pas ajouter
Bien
par
sûr.
défaut, voilà. Mais oui, non, effectivement, nous, on va suivre. Après, il y a des choses pour nous qui sont red flag. Donc, dès qu'il y a des choses trop centralisées ou alors,
Bien sûr.
blockchain privée, je t'en parle même pas. C'est, voilà, on est venu plusieurs, il y a plusieurs personnes qui sont venues avec des demandes comme ça. C'est pas du tout dans la philosophie. Mais par contre, oui, non, on suit le marché, on regarde tout ce qui nous paraît intéressant. Nous, on aime bien les privacy layers. Alors, c'est un petit peu plus compliqué d'un point de vue. Pas réglementaire, hein. Encore une fois,
Plus technologique.
d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas de problème avec les privacy chains. C'est plus au niveau des banques. Alors les banques, dès qu'il y a le mot privacy dedans, ça irrisse tout le monde. Donc les gens ont très peur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait pas de Monero, on ne fait pas des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, nos partenaires bancaires ne le veulent pas. Ce n'est pas parce que c'est interdit. C'est parce que nos partenaires bancaires nous ont dit, vous faites ça, on vous coupe.
Il vaut mieux ne pas le
Voilà.
faire. très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Merci à toi, Nicolas.
Merci de nous avoir expliqué ton parcours qui est très intéressant, d'avoir parlé de Mon Pèlerin et de toutes ces exclusivités qui viendront dans les prochains mois. Je te souhaite de profiter de la journée que tu as passée à ETHCC. Merci
Merci.
beaucoup.